Chapitre 20, les premiers républicains, l'entresol des Tuileries. Le 20 février 1791, Roland avait été envoyé de Lyon à Paris comme député extraordinaire. Sa mission était de plaider la cause de 20 000 ouvriers sans pain. Il était depuis 5 mois à Paris lorsqu'était arrivé ce terrible événement de Varennes qui eut une telle influence sur la destinée de nos héros et sur le sort de la France que nous avons cru devoir lui consacrer près d'un volume. Or, depuis le retour du roi, 25 juin, jusqu'au jour où nous sommes arrivés, le 16 juillet, il s'était passé bien des choses. Tout le monde avait crié « Le roi se sauve !» Tout le monde avait couru après le roi, tout le monde l'avait ramené à Paris, et une fois de retour, une fois le roi à Paris, une fois le roi aux Tuileries, personne ne savait plus que faire de lui. Chacun apporte son avis, les avis soufflent de tous les côtés et on dirait des vents pendant la tempête. Malheur au vaisseau qui est en mer par un pareil orage. Le 21 juin, jour de la fuite du roi, les cordeliers avaient fait leur affiche, signée par le gendre, ce boucher français que la reine indiquait comme pendant au boucher anglais Harrison. L'affiche portait ces vers pour épitaphe. Si parmi les Français il se trouvait un traître qui regretta le roi et qui voulut un maître, que le perfide meure au milieu des tourments et que sa cendre soit abandonnée au vent. Les vers étaient de Voltaire, ils étaient mauvais et rimaient mal, mais ils avaient le mérite d'exprimer nettement la pensée des patriotes dont ils décoraient l'affiche. Cette affiche déclarait que tous les cordeliers avaient fait serment de poignarder les tyrans qui oseraient attaquer le territoire, la liberté et la Constitution. Quant à Marat qui marche toujours seul et qui donne pour prétexte de son isolement que l'aigle vit solitaire et que les dindons vivent en groupe, Marat propose un dictateur. « Prenez, dit-il dans son journal, prenez un bon Français, un bon patriote. Prenez le citoyen qui, depuis le commencement de la Révolution, montre le plus de lumière, de zèle, de fidélité et de désintéressement. Prenez-le sans plus tarder, ou la cause de la Révolution est perdue. » Ce qui voulait dire « prenez Marat ». Quant à Prudhomme, il ne propose ni un homme, ni un gouvernement nouveau, seulement il abomine l'ancien dans la personne du roi et de ses descendants. Écoutons-le. Le surlendemain lundi, dit-il, on fit prendre l'air au dauphin le long de la terrasse des Tuileries donnant sur la rivière. Quand on apercevait un groupe assez considérable de citoyens, un grenadier soldé prenait l'enfant dans ses bras et l'asseyait sur le rebord en pierre de la terrasse. Le bambin royal, fidèle à sa leçon du matin, envoyait des baisers au peuple. C'était crié « merci » pour son papa et sa maman. Quelques spectateurs eurent la lâcheté de crier « Vive le dauphin !» Les citoyens, soyez en garde contre les cajoleries d'une cour rampante avec le peuple quand elle n'est pas la plus forte. Et puis, après ces lignes, venait immédiatement celle-ci. Ce fut le 27 janvier 1649 que le Parlement d'Angleterre condamna Charles Ier à avoir la tête tranchée, pour avoir voulu étendre les prérogatives royales et se maintenir dans les usurpations de Jacques Ier et son père. Ce fut le 30 du même mois qu'il expia ses forfaits presque légitimes par l'usage et consacrés par un parti nombreux. Mais la voix du peuple s'était fait entendre. Le Parlement déclara le roi fugitif, traître, ennemi public, et Charles Stuart fut décollé devant la salle des festins du palais de Whitehall. Bravo, citoyen Prudhomme. Au moins, vous n'êtes pas en retard et le 21 janvier 1793, lorsqu'à son tour Louis XVI sera décollé, vous aurez le droit de réclamer l'initiative ayant proposé l'exemple le 21 juin 1791. Il est vrai que M. Prudhomme, ne pas confondre avec celui-ci notre spirituel ami Monnier, celui-là est un sot mais un honnête homme, il est vrai que M. Prudhomme se fera plus tard royaliste et réactionnaire et publiera l'histoire des crimes commis pendant la Révolution. La belle chose que la conscience. La bouche de fer est plus franche, elle. Point d'hypocrisie, point de parole à double entente, point de sens perfide. C'est Bonneville, un fou admirable, qui divague dans les circonstances vulgaires, mais qui ne se trompe jamais dans les grandes, c'est lui qui la rédige. Elle est ouverte, la Bouche de Fer, rue de l'Ancienne Comédie, près de l'Odéon, à deux pas du Club des Cordeliers. On a effacé du serment, dit-il, le mot infâme de roi. Plus de roi, plus de mangeur d'hommes. On changeait souvent de nom jusqu'ici, et l'on gardait toujours la chose. Point de régent, point de dictateur, point de protecteur, point d'Orléans, point de Lafayette. Je n'aime pas ce fils de Philippe d'Orléans qui prend justement ce jour pour monter la garde aux Tuileries, ni son père qu'on ne voit jamais à l'Assemblée et qu'on voit toujours sur la terrasse des Feuillants. Est-ce qu'une nation a besoin d'être toujours en tutelle? Que nos départements se confédèrent et déclarent qu'ils ne veulent ni tyran, ni monarque, ni protecteur, ni régent, ni aucune de ces ombres de roi, ombre aussi funeste à la chose publique que l'ombre de cet arbre maudit, le Bohon Upas, dont l'ombre est mortelle. Mais il ne suffit pas de dire « République ». Venise aussi fut république. Il faut une communauté nationale, un gouvernement national. Assembler le peuple à la face du soleil, proclamer que la loi seule doit être souveraine, jurer qu'elle règnera seule, il n'y a pas un ami de la liberté sur la terre qui ne répète le serment. Quant à Camille Desmoulins, il était monté sur une chaise dans le palais royal, c'est-à-dire sur le théâtre ordinaire de ses exploits oratoires, et il avait dit « Messieurs, il serait malheureux que cet homme perfide nous fût ramené. Qu'en ferions-nous? Il viendrait comme Tersite nous verser ces larmes grasses dont parle Homère. Si on nous le ramène, je fais la motion qu'on l'expose 3 jours à la risée publique, le mouchoir rouge sur la tête, et qu'on le conduise ensuite par étapes jusqu'aux frontières. » De toutes les propositions, avouons-le, celle de cet enfant terrible qu'on appelle Camille Desmoulins n'était pas la plus folle. Encore un mot, il peindra bien le sentiment général. C'est Dumont qui le dit, un genevois pensionné de l'Angleterre et qui par conséquent n'est pas suspect de partialité pour la France. Le peuple sembla inspiré d'une sagesse suprême. « Voilà un grand embarras parti, disait-il gaiement. Mais si le roi nous a quittés, la nation reste. Il peut y avoir une nation sans roi, mais non pas un roi sans nation. » On voit qu'au milieu de tout cela, le mot « république » n'a encore été prononcé que par Bonneville. Ni Brissot, ni Danton, ni Robespierre, ni même Pétion n'osent relever ce mot. Il effraie les Cordeliers, il indigne les Jacobins. Le 13 juillet, Robespierre s'est écrié à la tribune « Je ne suis ni républicain ni monarchiste ». Si l'on eût mis Robespierre au pied du mur, il eût été, comme on voit, bien embarrassé de dire ce qu'il était. Eh bien, tout le monde en était à peu près là, excepté Bonneville et cette femme qui, en face de son mari, recopie une protestation à ce 3e étage de la rue Guénégaud. Le 22 juin, le lendemain du départ du roi, elle écrivait « Le sentiment de la République, l'indignation contre Louis XVI, la haine des rois, s'exalte ici de partout. » Le sentiment, vous le voyez, le sentiment de la République est dans les cœurs, mais le nom de la République est à peine dans quelques bouches. L'Assemblée surtout lui est hostile. Le grand malheur des assemblées est de s'arrêter toujours au moment où elles ont été élues, de ne point tenir compte des événements, de ne point marcher avec l'esprit du pays, de ne point suivre le peuple où il va et de prétendre qu'elle continue à représenter le peuple. L'Assemblée disait « Les mœurs de la France ne sont point républicaines ». L'Assemblée joutait avec M. de la Palice et, à notre avis, l'emportait sur l'illustre diseur de vérité. Qui aurait formé les mœurs de la France à la République? Est-ce la monarchie? Non pas, la monarchie n'était pas si bête. La monarchie a besoin d'obéissance, de servilité, de corruption, et elle forme les mœurs à la corruption, à la servilité et à l'obéissance. C'est la République qui forme les mœurs républicaines. Ayez d'abord la République et les mœurs républicaines viendront après. Il y avait eu cependant un moment où la proclamation de la République eût été facile. C'était au moment où l'on apprit que le roi était parti emmenant le dauphin. Au lieu de courir après eux et de les ramener, il fallait leur donner les meilleurs chevaux des écuries postales, de vigoureux postillons avec des fouets aux mains, des éperons aux bottes. Il fallait pousser les courtisans derrière eux, les prêtres derrière les courtisans et fermer la porte par-dessus tout cela. Lafayette, qui avait quelquefois des éclairs, rarement des idées, eut un de ces éclairs-là. À 6 heures du matin, on vint lui dire que le roi, la reine et la famille royale étaient partis. On eut toutes les peines du monde à le réveiller. Il dormait de ce sommeil historique qu'on lui avait déjà reproché à Versailles. « Parti, dis-tu, impossible, j'ai laissé Gouvion dormant, appuyé à la porte de leur chambre à coucher. » Cependant, il se lève, s'habille et descend. À la porte, il rencontre Bailly, le maire de Paris, Beauharnais, le président de l'Assemblée. Bailly, ayant le nez plus long et la figure plus jaune que jamais, Beauharnais consterné. Chose curieuse, n'est-ce pas? Le mari de Joséphine, qui, mourant sur l'échafaud, laisse sa veuve sur le chemin du trône, est consterné de la fuite de Louis XVI. « Quel malheur, s'écrie Bailly, que l'Assemblée ne soit pas réunie encore !»« Oh oui, dit Beauharnais, c'est un grand malheur !»« Tiens, dit Lafayette, ainsi, il est parti ?»« Hélas, oui, répondent en chœur les deux hommes d'État. » « Pourquoi, hélas ?» demande Lafayette. « Comment, vous ne comprenez pas ?» s'écrie Bailly. « Parce qu'il va revenir avec les Prussiens, les Autrichiens, les émigrés, parce qu'il va ramener la guerre civile, la guerre étrangère. » Alors, dit Lafayette, mal convaincu, « Vous pensez que le salut public exige le retour du roi ?»« Oui, » disent d'un seul cri Bailly et Beauharnais. « En ce cas, dit Lafayette, courons après lui. » Et il écrit ce billet, « Les ennemis de la patrie ayant enlevé le roi, il est ordonné aux gardes nationaux de les arrêter. » En effet, remarquez bien cela, toute la politique de l'année 1791, toute la fin de l'Assemblée nationale va rouler là-dessus. Puisque le roi est nécessaire à la France, puisqu'on doit le ramener, il faut qu'il ait été enlevé et non pas qu'il se soit sauvé. Tout cela n'avait pas convaincu Lafayette, aussi en envoyant Romeuf, lui avait-il recommandé de ne pas trop se presser. Le jeune aide-de-camp avait pris la route opposée à celle que suivait Louis XVI pour être sûr de ne pas le rejoindre. Malheureusement, sur la véritable route était Billot. Quand l'Assemblée sut la nouvelle, il y eut terreur. À la vérité, le roi avait, en partant, laissé une lettre fort menaçante. Il faisait parfaitement comprendre qu'il allait chercher l'ennemi et qu'il reviendrait mettre les Français à la raison. Les royalistes, de leur côté, levaient la tête et haussaient le ton. Un d'eux, Sulot, je crois, écrivait « Tous ceux qui voudront être compris dans l'amnistie que nous offrons à nos ennemis au nom du prince de Condé pourront se faire inscrire dans nos bureaux d'ici au mois d'août. » Nous aurons 1500 registres pour la commodité du public. » Un de ceux qui eurent la plus grande peur fut Robespierre. La séance ayant été suspendue de 3h30 à 5h, il courut chez Pétion. Le faible cherchait le fort. Selon lui, Lafayette était complice de la cour. Il ne s'agissait pas moins que de faire une Saint-Barthélemy de député. « Je serai un des premiers tués !» s'écriait-il lamentablement. « Je n'en ai pas pour 24 heures !» Pétion, tout au contraire, d'un caractère calme et d'un tempérament lymphatique, voyait les choses autrement. « Bon, dit-il, maintenant on connaît le roi, et on agira en conséquence. » Brissot arriva. C'était un des hommes les plus avancés de l'époque. Il écrivait dans le Patriote. « On fonde un nouveau journal dont je serai l'un des rédacteurs, dit-il. « Lequel ?» demanda Pétion. « Le Républicain. » Robespierre grimaça un sourire. « Le Républicain, dit-il, je voudrais bien que vous m'expliquassiez ce que c'est que la République. » Ils en étaient là quand, chez Pétion, leur ami, arrivèrent les deux Roland, le mari austère et résolu comme toujours, la femme calme, plutôt souriante qu'effrayée, avec ses beaux yeux clairs et parlants. Ils venaient de chez eux, de la rue Guénigaud, ils avaient vu l'affiche des Cordeliers. Comme les Cordeliers, ils ne croyaient pas le moins du monde qu'un roi fût nécessaire à la nation. Le courage du mari et de la femme rendit cœur à Robespierre. Il rentre à la séance en observateur, prêt à profiter de tout, du coin où il siège, comme le renard embusqué au bord de son terrier. Vers 9 heures du soir, il voit que l'assemblée tourne au sentimentalisme, qu'on prêche la fraternité et que, pour joindre l'exemple à la théorie, on va aller en masse aux Jacobins, avec lesquels on est très mal et que l'on appelle une bande d'assassins. Alors il glisse de son banc, rampe vers la porte, s'esquive sans être remarqué, court aux Jacobins, monte à la tribune, dénonce le roi, dénonce le ministère, dénonce Bailly, dénonce Lafayette, dénonce l'assemblée tout entière, répète la fable du matin, déroule une Saint-Barthélemy imaginaire et finit par dévouer son existence sur l'autel de la patrie. Quand Robespierre parlait de lui-même, il arrivait à une certaine éloquence. À cette idée que le vertueux, que l'austère Robespierre court un si grand danger, on sanglote. « Si tu meurs, nous mourrons tous avec toi !» crie une voix. « Oui, oui, tous, tous !» répètent en chœur les assistants, et les uns étendent la main pour jurer, les autres tirent l'épée, les autres tombent à genoux, les bras levés au ciel. On levait beaucoup les bras au ciel en ce temps-là. C'était le geste de l'époque. Voyez plutôt le serment du jeu de paume de David. Madame Roland était là, ne comprenant pas trop quel danger pouvait courir Robespierre. Mais enfin, elle était femme, par conséquent accessible à l'émotion. L'émotion était grande, elle fut émue, elle-même l'avoue. En ce moment, Danton entre. Popularité naissante, c'était à lui d'attaquer la popularité chancelante de Lafayette. Pourquoi cette haine de tout le monde contre Lafayette? Peut-être parce qu'il était honnête homme et toujours dupe des partis, pourvu que les partis en applassent à sa générosité. Aussi, au moment où l'on annonce l'assemblée, où, pour donner l'exemple de la fraternité, Lamette et Lafayette, ces deux ennemis mortels, entrent bras dessus, bras dessous, de tous côtés ce cri se fait entendre « Danton, à la tribune! À la tribune, Danton !» Robespierre ne demandait pas mieux que de céder la place. Robespierre, nous l'avons dit, était un renard et non un dogue. Il poursuivait l'ennemi absent, sautait sur lui par derrière, se cramponnait à ses épaules, lui rongeait le crâne jusqu'à la cervelle, mais l'attaquait rarement en face. La tribune était donc vide, attendant Danton. Seulement il était difficile à Danton d'y monter. S'il était le seul homme qui dût attaquer Lafayette, Lafayette était peut-être le seul homme que Danton ne put pas attaquer. Pourquoi? Ah, nous allons vous le dire. Il y avait beaucoup de Mirabeau dans Danton, comme il y avait beaucoup de Danton dans Mirabeau. Même tempérament, même besoin de plaisir, même nécessité d'argent et par conséquent, même facilité de corruption. On assurait que, comme Mirabeau, Danton avait reçu de l'argent de la cour. Où, par quelle voie, combien, on l'ignorait, mais il en avait reçu, on en était sûr, on le disait du moins. Voilà ce qu'il y avait de réel dans tout cela. Danton venait de vendre au ministère sa charge d'avocat au conseil du roi, et l'on disait qu'il avait reçu du ministère 4 fois le prix de sa charge. C'était vrai, seulement le secret était entre 3 personnes, le vendeur, Danton, l'acheteur, monsieur de Montmorin, l'intermédiaire, monsieur de Lafayette. Si Danton accusait Lafayette, Lafayette pouvait lui jeter en plein visage l'histoire de cet office vendu 4 fois sa valeur. Un autre eût reculé. Danton, au contraire, marcha en avant. Il connaissait Lafayette, cette générosité de cœur qui dégénéra parfois en niaiserie, rappelons-nous 1830. Danton se dit que M. de Montmorin, ami de Lafayette, que M. de Montmorin, qui avait signé les passeports du roi, était trop compromis en ce moment pour que Lafayette vînt lui attacher au cou cette nouvelle pierre. Il monta à la tribune. Son discours ne fut pas long. « Monsieur le Président, dit-il, j'accuse Lafayette. Le traître va venir. Que l'on dresse 2 échafauds et je consens à monter sur l'un s'il n'a pas mérité de monter sur l'autre. » Le traître n'allait pas venir, il venait, il put entendre l'accusation terrible qui sortait de la bouche de Danton, mais comme celui-ci l'avait prévu, il eut la générosité de ne pas y répondre. Lamette se chargea de ce soin, il répandit sur la lave de Danton l'eau tiède d'une de ses pastorales ordinaires, il prêcha la fraternité. Puis vint Sieyès, qui prêcha aussi la fraternité, puis Barnave, qui reprêcha la fraternité. ces trois popularités finirent par l'emporter sur celle de Danton. On sut gré à Danton d'avoir attaqué Lafayette, mais on sut gré à Lameth, à Sieyès et à Barnave de l'avoir défendu. Et quand Lafayette et Danton sortirent des Jacobins, ce fut Lafayette qu'on accompagna avec des flambeaux et que l'on reconduisit avec des acclamations. Le parti de la cour venait de remporter une grande victoire dans cette ovation de Lafayette. Les deux grandes puissances du jour étaient battues dans la personne de leur chef, les Jacobins dans Robespierre, les Cordeliers dans Danton. Je vois bien qu'il faut encore que je remette de dire quelle était cette protestation que Madame Roland copiait en face de son mari dans ce petit salon du troisième étage de l'hôtel britannique. Cette protestation que copiait Madame Roland, nous allons savoir ce qu'elle contenait, mais pour que le lecteur soit parfaitement au courant de la situation et qu'il voit clair dans un des plus sombres mystères de la Révolution, il faut d'abord qu'il passe avec nous par les Tuileries pendant la soirée du 15 juillet. Derrière la porte d'un appartement donnant dans un corridor obscur et désert situé à l'entresol du palais, une femme se tenait debout, l'oreille tendue, la main sur la clé, tressaillant à chaque pas qui éveillait un écho dans les environs. Cette femme, si nous ignorions qui elle est, il nous serait difficile de la reconnaître, car, outre l'obscurité qui, même en plein jour, règne dans ce corridor, la nuit est venue, et, soit hasard, soit préméditation, la mèche de l'unique quinquet qui y brûle est baissée et semble près de s'éteindre. De plus, la seconde chambre de l'appartement est seule éclairée, et c'est contre la porte de la première que cette femme attend, tressaille et écoute. Quelle est cette femme qui attend? Marie-Antoinette. Qui attend-elle? Barnave. Ô superbe fille de Marie-Thérèse, qui vous eût dit, le jour où l'on vous sacra reine des Français, qu'il arriverait un moment où, caché derrière la porte de l'appartement de votre femme de chambre, vous attendriez, en tressaillant de crainte et d'espérance, un petit avocat de Grenoble, vous qui avez tant fait attendre Mirabeau et qui n'avez daigné le recevoir qu'une fois. Mais qu'on ne s'y trompe point, c'est dans un intérêt tout politique que la reine attend Barnave. Dans cette respiration suspendue, dans ces mouvements nerveux, dans cette main qui tremble en froissant la clé, le cœur n'est pour rien, et l'orgueil seul est intéressé. Nous disons l'orgueil, car malgré les mille persécutions auxquelles le roi et la reine sont en butte depuis leur retour, il est évident que la vie est sauve, et que toute la question se résume dans ces quelques mots. Les fugitifs de Varennes perdront-ils le reste de leur pouvoir ou reconquerront-ils le pouvoir perdu? Depuis cette soirée fatale où Charny a quitté les Tuileries pour n'y plus entrer, le cœur de la reine a cessé de battre. Pendant quelques jours, elle est restée indifférente à tout, même aux outrages. Mais peu à peu, elle s'est aperçue qu'il y avait deux points de sa puissante organisation par lesquels elle vivait encore. L'orgueil et la haine, et elle est revenue à elle pour haïr et pour se venger. Non pas se venger de Charny, non pas haïr André, non. Quand elle pense à eux, c'est elle-même qu'elle est, c'est d'elle-même qu'elle voudrait se venger, car elle est trop loyale pour ne pas se dire que de son côté à elle ont été tous les torts et de leur côté à eux tous les dévouements. Oh, si elle pouvait les haïr, elle serait trop heureuse. Mais ce qu'elle est, et du plus profond de son cœur, c'est ce peuple qui a mis la main sur elle comme sur une fugitive ordinaire, qui l'a comblée de dégoût, poursuivie d'injures, abreuvée de honte. Oui, elle le hait bien, ce peuple qui l'a appelée Madame Déficit, Madame Veto, qui l'appelle l'Autrichienne, qui l'appellera la Veuve Capet. Et si elle peut se venger, oh, comme elle se vengera! Or, ce que vient lui apporter Barnave le 15 juillet 1791 à 9 heures du soir, tandis que Madame Roland copie en face de son mari dans ce petit salon du troisième étage de l'hôtel britannique, cette protestation dont nous ignorons encore le contenu, c'est peut-être l'impuissance et le désespoir, mais c'est peut-être aussi ce mets divin qu'on appelle la vengeance. En effet, la situation est suprême. Sans doute, grâce à Lafayette et à l'Assemblée nationale, le premier coup avait été paré avec le bouclier constitutionnel. Le roi avait été enlevé, le roi n'avait pas fui. Mais on se rappelle l'affiche des Cordeliers, mais on se rappelle la proposition de Marat, mais on se rappelle la diatribe du citoyen Prudhomme, mais on se rappelle la boutade de Bonneville, mais on se rappelle la motion de Camille Desmoulins, mais on se rappelle l'axiome de Genevoix-Dumont. Mais on se rappelle qu'il va être fondé un nouveau journal auquel travaillera Brissot et que ce journal s'appellera Le Républicain. Veut-on connaître le prospectus de ce journal? Il est court mais explicite. C'est l'Américain Thomas Paine qui l'a rédigé. Puis il a été traduit par un jeune officier qui a fait la guerre de l'indépendance et il a été affiché avec la signature de Duchâtelet. Quelle étrange chose que cette fatalité qui, des quatre coins du monde, appelle des ennemis nouveaux à ce trône qui crôle. Thomas Paine. Que vient faire ici Thomas Paine? Cet homme qui est de tous les pays, anglais, américain, français, qui a fait tous les métiers, qui a été fabricant, maître d'école, douanier, matelot, journaliste. Ce qu'il vient faire, il vient mêler son haleine à ce vent d'orage qui souffle impitoyablement sur ce flambeau qui s'éteint. Voici le prospectus du Républicain de 1791, de ce journal qui paraissait ou qui allait paraître quand Robespierre demandait ce que c'était qu'une république. Nous venons d'éprouver que l'absence d'un roi nous vaut mieux que sa présence. Il a déserté et par conséquent abdiqué. La nation ne rendra jamais sa confiance au parjure, au fuyard. Sa fuite est-elle son fait ou celui d'autrui? Qu'importe, fourbe ou idiot, il est toujours indigne. Nous sommes libres de lui et il l'est de nous. C'est un simple individu, Monsieur Louis de Bourbon. Pour sa sûreté, elle est certaine. La France ne se déshonorera pas, la royauté est finie. Qu'est-ce qu'un office abandonné au hasard de la naissance qui peut être rempli par un idiot? N'est-ce pas un rien, un néant? On comprend l'effet produit par une pareille affiche collée sur les murs de Paris. Le constitutionnel Malouet en fut épouvanté. Il entra tout courant, tout effaré, à l'Assemblée nationale, dénonçant le prospectus et demandant que l'on arrêtât les auteurs. Soit, répond Pétion, mais lisons d'abord le prospectus. Ce prospectus, Pétion, un des rares républicains qu'il y eut alors en France, le connaissait certainement. Malouet, qui l'avait dénoncé, recula devant la lecture. Si les tribunes allaient l'applaudir, et il était certain qu'elles applaudiraient. Deux membres de l'Assemblée, Chabroux et Chapelier, réparèrent la bévue de leurs collègues. « La presse est libre, dirent-ils, et chacun, fou ou sage, a le droit d'émettre son opinion. Méprisons l'œuvre d'un insensé et passons à l'ordre du jour. » Et l'Assemblée passa à l'ordre du jour. Soit, n'en parlons plus, mais c'est l'hydre qui menace la monarchie. Une tête coupée, pendant qu'elle repousse, une autre mort. On n'a pas oublié monsieur, ni la conspiration Favras. Le roi écarté, monsieur nommé régent, aujourd'hui il ne s'agit plus de monsieur. Monsieur a fui en même temps que le roi, et plus heureux que le roi, il a gagné la frontière. Mais monsieur le duc d'Orléans est resté, lui. Il est resté avec son âme damnée, avec l'homme qui le pousse en avant, Laclos, l'auteur des liaisons dangereuses. Il existe un décret sur la régence, un décret qui moisit dans les cartons. Pourquoi n'utiliserait-on pas ce décret? Le 28 juin, un journal offre la régence au duc d'Orléans. Louis XVI, vous le voyez, n'existe plus, quoi qu'en ait l'Assemblée nationale, puisqu'on offre la régence au duc d'Orléans, c'est qu'il n'y a plus de roi. Bien entendu, le duc d'Orléans fait semblant de s'étonner et refuse. Mais le 1er juillet, Laclos, de son autorité privée, proclame la déchéance et veut un régent. Le 3, Réal établit que le duc d'Orléans est véritablement gardien du jeune prince. Le 4, il demande à la tribune des Jacobins que l'on réimprime et que l'on proclame le décret sur la régence. Malheureusement, les Jacobins, qui ne savent pas encore ce qu'ils sont, savent au moins ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas orléanistes, quoique le duc d'Orléans et le duc de Chartres fassent partie de la société. La régence du duc d'Orléans est repoussée aux Jacobins. mais la nuit suffit à Laclos pour reprendre haleine. S'il n'est pas le maître aux Jacobins, il est le maître de son journal, et là il proclame la régence du duc d'Orléans, et comme le mot « protecteur » a été profané par Cromwell, le régent qui aura tout pouvoir se nommera un « modérateur ». En tout cela, on le voit, c'est une campagne contre la royauté, campagne dans laquelle la royauté, impuissante par elle-même, n'a d'autre allié que l'Assemblée nationale. Or, il y a les Jacobins, qui sont une assemblée bien autrement influente et surtout bien autrement redoutable que l'Assemblée nationale. Le 8 juillet, voyez comme nous approchons, Pétion y porte la question de l'inviolabilité royale. Seulement, il sépare l'inviolabilité politique de l'inviolabilité personnelle. On lui objecte que l'on va se brouiller avec les rois si l'on dépose Louis XVI. « Si les rois veulent nous combattre, répond Pétion, en déposant Louis XVI, nous leur enlevons leur plus puissant allié, tandis qu'en le laissant sur le trône, nous leur donnons toute la force que nous lui aurons rendue. » Brissot, à son tour, monte à la tribune et va plus loin. Il examine cette question. « Le roi peut-il être jugé ?»« Plus tard, dit-il, nous discuterons, en cas de destitution, quel sera le gouvernement à substituer à la royauté. » Il paraît que Brissot fut superbe. Madame Roland était à cette séance. Écoutez ce qu'elle en dit. Ce ne fut point des applaudissements, ce furent des cris, des transports. Trois fois l'assemblée entraînée s'était levée tout entière, les bras étendus, les chapeaux en l'air, et dans un enthousiasme inexprimable. Périsse à jamais quiconque a ressenti ou partagé ces grands mouvements et qui pourrait encore reprendre des fers. Ainsi voilà que non seulement le roi peut être jugé, mais encore que l'on applaudit avec enthousiasme celui qui résout la question. Jugez quel terrible écho les applaudissements devaient avoir aux Tuileries. Aussi fallait-il que l'Assemblée nationale, à son tour, vidât cette formidable question. Les constitutionnels, au lieu de reculer devant le débat, le provoquèrent. Ils étaient sûrs de la majorité. Mais la majorité de l'Assemblée était loin de représenter la majorité de la nation. N'importe, les assemblées en général s'inquiètent peu de ces anomalies, elles font, c'est au peuple à défaire. Et quand le peuple défait ce qu'a fait une assemblée, cela s'appelle, tout simplement, une révolution. Le 13 juillet, les tribunes sont remplies de gens sûrs, introduits d'avance avec des billets spéciaux. C'est ce que, aujourd'hui, nous nommerions des claqueurs. En outre, les royalistes gardent les corridors. On a retrouvé, pour la circonstance, les chevaliers du poignard. Enfin, sur proposition d'un membre, on ferme les Tuileries. Oh, sans doute, le soir de ce jour-là, la reine avait attendu Barnave aussi impatiemment qu'elle l'attendait dans la soirée du 15. Et ce jour-là, cependant, rien ne devait se décider. Le rapport, seulement fait au nom des cinq comités, allait être lu. Ce rapport disait « La fuite du roi n'est pas un cas prévu dans la Constitution, mais l'inviolabilité royale y est écrite. » Les comités, considérant donc le roi comme inviolable, ne livraient à la justice que M. de Bouillé, M. de Charny, Mme de Tourzel, les courriers, les domestiques, les laquais. Jamais l'ingénieuse fable des grands et des petits n'avait reçu une plus complète application. C'était aux Jacobins, du reste, bien plus qu'à l'Assemblée, que la question se discutait. Comme elle n'était pas jugée, Robespierre restait dans le vague. Il n'était ni républicain ni monarchiste. On pouvait être libre sous un roi comme avec un sénat. C'était un homme qui se compromettait rarement que M. de Robespierre, et nous avons vu quelle terreur le prenait, même quand il n'était pas compromis. Mais il y avait là des hommes qui n'avaient point cette précieuse prudence. Ces hommes, c'étaient l'ex-avocat Danton et le boucher Legendre, un bouledogue et un ours. « L'Assemblée peut absoudre le roi, dit Danton, le jugement sera réformé par la France, car la France le condamne. » « Les comités sont fous, dit le gendre. S'ils connaissaient l'esprit des masses, ils reviendraient à la raison. Du reste, ajouta-t-il, si je parle ainsi, c'est pour leur salut. » De pareils discours indignaient les constitutionnels. Malheureusement pour eux, ils n'étaient pas la majorité aux Jacobins comme ils l'étaient à l'Assemblée. Ils se contentèrent de sortir. Ils eurent tort. les gens qui quittent la place ont toujours tort, et il y a là-dessus un vieux dicton français plein de sens, « Qui quitte sa place la perd », dit le proverbe. Non seulement les constitutionnels perdirent la place, mais encore la place fut prise par des députations populaires apportant les adresses contre les comités. Voilà ce qui allait aux Jacobins, aussi les députés furent-ils reçus avec acclamation. En même temps, une adresse qui devait conquérir de son côté une certaine importance dans les événements qui vont suivre se rédigeait à l'autre bout de Paris, au fond du Marais, dans le club ou plutôt dans une société fraternelle d'hommes et de femmes que l'on appelait la société des minimes du lieu où elle se tenait. Cette société était une succursale des Cordeliers. Aussi était-elle animée de l'âme de Danton. Un jeune homme de 23 à 24 ans à peine, sur lequel Danton avait soufflé et qu'il avait animé de son souffle, tenait la plume et rédigeait cette adresse. Ce jeune homme, c'était Jean Lambert Tallien. L'adresse portait pour signature un nom formidable, elle était signée « Le Peuple ». Le 14, la discussion s'ouvrit à l'Assemblée. Cette fois, il avait été impossible d'interdire les tribunes au public. Impossible aussi de bourrer, comme les premières fois, les corridors et les avenues de royalistes et de chevaliers du poignard. Impossible enfin de fermer le jardin des Tuileries. Le prologue s'était joué devant les claqueurs, mais la comédie allait être représentée devant le vrai public. Et il faut le dire, le public était mal disposé. Si mal disposé que Duport, populaire encore il y a 3 mois, fut écouté dans un morne silence quand il proposa de faire retomber sur l'entourage du roi le crime de roi. Il alla cependant jusqu'au bout, étonné de parler pour la première fois sans soulever un mot, un signe d'approbation. C'était un désastre de cette triade dont la lumière allait s'effaçant peu à peu dans le ciel politique, Duport, Lamette, Barnave. Robespierre, après lui, monta à la tribune. Robespierre, l'homme prudent, qui savait si bien s'effacer, qu'allait-il dire? L'orateur, qui 8 jours auparavant avait déclaré qu'il n'était ni monarchiste ni républicain, pour qui allait-il se prononcer? Il ne se prononça point. Il vint, avec son aigre douceur, se constituer l'avocat de l'humanité. Il dit qu'à son avis, il y aurait à la fois injustice et cruauté à ne frapper que les faibles, qu'il n'attaquait point le roi, puisque l'Assemblée paraissait regarder le roi comme inviolable, mais qu'il défendait Bouillet, Charny, Madame de Tourzel et les courriers, les laquais, les domestiques, tous ceux, enfin, qui, par leur position dépendante, avaient été forcés d'obéir. L'Assemblée murmura fort pendant ce discours. Les tribunes écoutaient avec une grande attention, ne sachant si elles devaient applaudir ou improuver. Elles finirent par voir, dans les paroles de l'orateur, ce qu'il y avait véritablement, une attaque réelle à la royauté et une fausse défense de la courtisanerie. Alors les tribunes applaudirent Robespierre. Le président essaya d'imposer le silence aux tribunes. Le prieur de la Marne voulut porter le débat sur un terrain parfaitement déblayé de subterfuges et de paradoxes. « Mais, s'écria-t-il, que feriez-vous, citoyens, si le roi, étant mis hors de cause, on venait vous demander qu'il fût rétabli dans tout son pouvoir ?» La question était d'autant plus embarrassante qu'elle était directe. Mais il y a des moments d'impudence où rien n'embarrasse les partis réactionnaires. Desmeuniers releva l'apostrophe et parut soutenir, au détriment du roi, la cause de l'Assemblée. « L'Assemblée, dit l'orateur, est un corps tout-puissant, et dans sa toute-puissance, il a bien le droit de suspendre le pouvoir royal et de maintenir cette suspension jusqu'au moment où la Constitution sera terminée. » Ainsi, le roi, qui n'avait point fui, mais qui avait été enlevé, ne serait suspendu que momentanément et parce que la Constitution n'était point achevée. Une fois la Constitution achevée, il rentrerait de plein droit dans l'exercice de ses fonctions royales. « Enfin, s'écria l'orateur, puisqu'on me demande, personne ne le lui demandait, puisqu'on me demande de rédiger mon explication en décret, voici le projet que je propose. » Premièrement, la suspension durera jusqu'à ce que le roi accepte la Constitution. deuxièmement, s'il n'acceptait pas, l'assemblée le déclarerait déchu. « Oh, soyez tranquille !» s'écria Grégoire de sa place. « Non seulement il acceptera, mais encore il jurera tout ce que vous voudrez. » Et il avait raison, si ce n'est qu'il eût dû dire « jurera et acceptera tout ce que vous voudrez ». Les rois jurent plus facilement encore qu'ils n'acceptent. L'assemblée allait peut-être saisir au vol le projet de décret de Desmeuniers, mais Robespierre de sa place jeta ce mot. « Prenez garde, un tel décret décide d'avance que le roi ne sera pas jugé. » On était surpris en flagrant délit, on osa voter. Un bruit qu'on entendit à la porte tira l'assemblée d'embarras. C'était une députation de la Société fraternelle des Minimes apportant cette proclamation inspirée par Danton, rédigée par Tallien et signée « Le Peuple ». L'assemblée se vengea sur les pétitionnaires. Elle refusa d'entendre leur adresse. Barnave alors se leva. « Qu'elle ne soit pas lue aujourd'hui, dit-il, mais demain, écoutez-la, et ne vous laissez point influencer par une opinion factice. La loi n'a qu'à placer son signal, on verra s'y rallier tous les bons citoyens. » Lecteur, retenez bien ces quelques paroles, relisez ces sept mots, méditez cette phrase. « La loi n'a qu'à placer son signal ». La phrase a été prononcée le 14, le massacre du 17 est dans cette phrase. Aussi, on ne se contentait plus d'escamoter au peuple la toute-puissance dont il croyait être redevenu maître par la fuite du roi, disons mieux par la trahison de son mandataire. On rendait publiquement cette toute-puissance à Louis XVI, et si le peuple réclamait, si le peuple faisait des pétitions, il n'était plus qu'une opinion factice dont l'Assemblée, cet autre mandataire du peuple, aurait raison en plaçant son signal. Que signifiaient ces mots « placer le signal de la loi » ? Proclamer la loi martiale et arborer le drapeau rouge. En effet, le lendemain 15, c'est le jour décisif. L'Assemblée présente un aspect formidable. Personne ne la menace, mais elle veut avoir l'air d'être menacée. Elle l'appelle Lafayette à son aide, et Lafayette, qui a toujours passé près du vrai peuple sans le voir, Lafayette envoie à l'Assemblée 5000 hommes de garde nationale, auxquels, pour stimuler le peuple, il a soin de mêler 1000 piques du faubourg Saint-Antoine. Les fusils, c'était l'aristocratie de la garde nationale, les piques, c'en était le prolétariat. Convaincue, comme Barnave, qu'elle n'avait qu'à arborer le signal de la loi pour rallier à elle, non pas le peuple, mais Lafayette, le commandant de la garde nationale, mais Bailly, le maire de Paris, l'Assemblée était décidée à en finir. Or, quoique née depuis 2 ans à peine, l'Assemblée était déjà rouée comme une assemblée de 1829 ou de 1846. Elle savait qu'il ne s'agissait que de lasser membres et auditeurs par des discussions secondaires et de reléguer à la fin de la séance la question principale pour enlever d'emblée cette question. Elle perdit une moitié de la séance à entendre la lecture d'un rapport militaire sur les affaires du département. Et puis elle laissa complaisamment discourir 3 ou 4 membres qui avaient l'habitude de parler au milieu des conversations particulières. Puis, enfin, arrivée aux limites de la discussion, elle se tut pour écouter 2 discours, un de Salles, un de Barnave. 2 discours d'avocats, lesquels convainquirent si bien l'Assemblée que, Lafayette ayant demandé la clôture, elle vota en toute tranquillité. Et en effet, ce jour-là, l'Assemblée n'avait rien à craindre. Elle avait fait les tribunes, qu'on nous passe ce terme d'argot, nous l'employons comme le plus significatif. Les Tuileries étaient fermées, la police était aux ordres du président, Lafayette siégeait au sein de la chambre pour demander la clôture, Bailly stationnait sur la place à la tête du conseil municipal et tout prêt à faire ses sommations. Partout, l'autorité sous les armes offrait le combat au peuple. Aussi le peuple, qui n'était pas en mesure de combattre, s'écoula-t-il tout le long des baïonnettes et des piques, et s'en alla-t-il à son mont Aventin à lui, c'est-à-dire au Champ de Mars. Et notez bien ceci, il ne s'en allait pas au Champ de Mars pour se révolter, pour se mettre en grève, comme le peuple romain. Non, il allait au Champ de Mars parce qu'il était sûr d'y retrouver l'autel de la patrie que, depuis le 14, on n'avait pas encore eu le temps de démolir, si prompt que soient d'ordinaire les gouvernements à démolir les autels de la patrie. La foule voulait rédiger là une protestation et faire passer cette protestation à l'Assemblée. Pendant que la foule rédigeait sa protestation, l'Assemblée votait. Premièrement, cette mesure préventive. Si le roi rétracte son serment, s'il attaque son peuple ou ne le défend point, il abdique, devient simple citoyen et est accusable pour les délits postérieurs à son abdication. Deuxièmement, cette mesure répressive. Sont poursuivis, bouillés comme coupable principal et comme coupable secondaire toutes les personnes ayant pris part à l'enlèvement du roi. Au moment où l'Assemblée venait de voter, la foule avait rédigé et signé sa protestation. Elle revenait pour la présenter à l'Assemblée, qu'elle trouva mieux gardée que jamais. Tous les pouvoirs étaient militaires ce jour-là. Le président de l'Assemblée nationale était Charles Lamette, un jeune colonel. Le commandant de la garde nationale était Lafayette, un jeune général. Il n'y avait pas jusqu'à notre digne astronome Bailly qui, ayant noué sur son habit de savant la ceinture tricolore et coiffé sa tête pensive du tricorne municipal, n'eût au milieu de ses baïonnettes et de ses piques un certain air guerrier. Si bien qu'en le voyant ainsi, Madame Bailly eût pu le prendre pour Lafayette, comme disait-on, elle prenait parfois Lafayette pour lui. La foule parlementa. Elle était si peu hostile qu'il n'y avait pas moyen de ne point parlementer. Le résultat de cette parlementation fut que l'on permettrait aux députés de parler à messieurs Pétion et Robespierre. Voyez-vous grandir la popularité des nouveaux noms au fur et à mesure que baisse celle des Duport, des Lamette, des Barnave, des Lafayette et des Bailly. Les députés, au nombre de 6, partirent pour l'Assemblée, bien accompagnés. Robespierre et Pétion, prévenus, coururent les recevoir au passage des Feuillants. Il était trop tard, le vote était porté. Les deux membres de l'Assemblée, qui n'étaient point favorables à ce vote, n'en rendirent probablement pas compte aux députés du peuple, de manière à le leur faire doucement avaler. Aussi, ces députés revinrent-ils furieux vers ceux qui les avaient envoyés. Le peuple avait perdu la partie avec le plus beau jeu que la fortune eût jamais mis entre les mains d'un peuple. Par cela même, il était en colère. Il se répandit dans la ville et commença par faire fermer les théâtres. Les théâtres fermés, ainsi que le disait un de nos amis en 1830, c'est le drapeau noir sur Paris. L'opéra avait garnison, il résista. Lafayette, avec ses 4000 fusils et ses 1000 piques, ne demandait pas mieux que de réprimer cette émeute naissante. L'autorité municipale lui refusa les ordres. Jusque-là, la reine avait été tenue au courant des événements, mais les rapports s'étaient arrêtés là, leur suite s'était perdue dans la nuit moins sombre qu'eux. Barnave, qu'elle attendait avec tant d'impatience, devait lui dire ce qui s'était passé dans la journée du 15. Tout le monde, du reste, sentait l'approche de quelque événement suprême. Le roi, qui attendait aussi Barnave dans la seconde chambre de Madame Campan, avait été prévenu de l'arrivée du docteur Gilbert, et pour donner plus d'attention au récit des événements, il était remonté chez lui, gardant Gilbert et laissant Barnave à la reine. Enfin, vers 9h30, un pas résonna dans l'escalier, une voix se fit entendre, échangeant quelques mots avec la sentinelle qui se tenait sur le palier. Et puis, un jeune homme parut au bout du corridor, vêtu d'un habit de lieutenant de la garde nationale. C'était Barnave. La reine, le cœur palpitant, comme si cet homme eût été l'amant le plus adoré, tira la porte, et Barnave, après avoir regardé devant et derrière lui, se glissa par l'entrebâillement. La porte se referma aussitôt, et avant aucune parole échangée, on entendit le grincement d'un verrou dans sa gâche. Fin du 3e tome.